1965, Charles Munch revient diriger les concerts Lamoureux dans la musique d'Albert Roussel.
Thank you.
L'Allegro con spirito qui referme la troisième symphonie d'Albert Roussel par Charles Munch avec l'orchestre des concerts Lamoureux en 1965. Le grand poste de Charles Munch dans les années 50, on le sait, ça a été bien sûr l'orchestre symphonique de Boston avec lequel s'est lié une façon d'amitié très affectueuse. En 1962, quand il quitte Boston, Munch revient en France, il dirige l'orchestre national, il devient président de l'école normale de musique et il revient diriger aussi l'orchestre des concerts Lamoureux qu'il avait brièvement mené 30 ans auparavant. Mais depuis la formation historique, on rappelle que Lamoureux est l'un des plus grands orchestres français du 19e siècle, eh bien la formation a rencontré quelques difficultés. C'est un orchestre associatif, il y a beaucoup de très bons musiciens, mais qui sont tous embauchés aussi ailleurs et ne peuvent donc accorder à Lamoureux qu'un temps limité. Qu'à cela ne tienne, avec Charles Munch, on le sait, on s'arrange toujours avec le travail si le désir est là. Or, tout le monde a envie de se retrouver pour enregistrer Albert Roussel. Ça nous donne l'un des plus beaux disques de la discographie, ses 3e et 4e symphonies. C'était un extrait de la 4e symphonie d'Albert Roussel, l'orchestre des concerts L'Amoureux, dirigé par Charles Munch en 1965 pour Erato en l'église Notre-Dame du Liban. C'était notre disque de légende à retrouver et podcaster sur francemusique.fr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Après ces exubérances rousseliennes, j'avais envie de repos, je ne sais pas, d'une sorte de méditation triste. Voici donc l'adagio du second quatuor avec piano de Gabriel Fauré, œuvre créée en 1887. C'est en quelque sorte la porte d'entrée dans la deuxième manière du compositeur. Fauré a passé les 40 ans, il est moins charmeur, plus dense, un langage plus insaisissable, plus complexe aussi. Disons qu'avant de se trouver handicapé par la maladie, l'oreille s'améliore et va nous découvrir des trésors de raffinement ici dans le désespoir.
Thank you.
triste et doux, mais pas désespéré. C'était l'adagio du second quatuor avec piano de Gabriel Fauré, fait de quelle manière, par Pascal Roger au piano et les membres du quatuor Isaïe. On va poursuivre avec quelque chose d'assez émouvant, c'est la réunion de deux ensembles sous une même enseigne, la Grande Écurie et la Chambre du Roi, formation historique, on le sait, créée en 1966 par le regretté Jean-Claude Malgoy. La Grande Écurie a lié son destin à un ensemble beaucoup plus jeune, les Ambassadeurs d'Alexis Kossenko. Voici pour en témoigner un disque, c'est une magnifique fusion-acquisition. Un extrait du concerto pour violon en ré majeur, TW 53, Georg Philipp Telemann, avec ici Stefano Rossi au violon, les Ambassadeurs et la Grande Écurie côté orchestre, à la direction Alexis Kossenko. Et c'est un disque qui cherche à évoquer pour nous l'orchestre de Dresde dans la première moitié du XVIIIe siècle, sous l'impulsion des princes électeurs de Saxe. Dresde a été à l'époque le point de ralliement des meilleurs musiciens du monde à cette époque-là, le plus bel orchestre d'Europe, comme on disait, avec une discipline de faire. Et puis il y avait en plus de très très grands musiciens qui passaient là et s'installaient à Dresde. Buffardin à la flûte, Weiss au luth, Pissendel qui était à la fois violoniste et concertmeister de l'ensemble. Les plus grands compositeurs ont accepté et voulu parfois désirer être joués par cet orchestre de Dresde. On va entendre ici par exemple la musique de Zelenka.
<t'-> queste fulmini di fiamme di voragine, le sentieri innovati, di fiamme di voragine, potrei gli sentieri innovati.
La musique de Jan Dismas Zelenka, c'était même un air chanté par Dieu en personne. Ici Stéphane MacLeod, Les Ambassadeurs et la Grande Écurie étaient dirigés par Alexis Kossenko.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Alain Planès revient au disque avec un Chopin sur piano du temps jadis. On s'y croirait en l'année 1836 et en plus c'est vraiment beau.
Thank you.
C'est Alain Planès qu'on entendait ici jouer ce 8e nocturne de Frédéric Chopin. Planès qui a beau être un pianiste de grand répertoire, passé, on le sait, par la création, il s'est intéressé de manière très sérieuse, même si on n'a pas fait vraiment un principe absolu, aux instruments anciens. Et pour son intégrale des nocturnes de Frédéric Chopin, eh bien, il a choisi un Pleyel de 1836. C'est par hasard, bien sûr, Pleyel, c'est la marque de Chopin à laquelle le compositeur a été fidèle depuis son arrivée à Paris. Il y a eu un rapport qui était à la fois musical, esthétique et dûment contractualisé à la manufacture française. Et le modèle que Alain Planès a choisi ici est comme très particulier. 1836, disais-je, c'est un modèle dit grand patron parce qu'il a une projection, une puissance comparable à celle déjà d'un grand piano moderne. Vous allez me dire, on est là dans le cadre des nocturnes. Oui, nocturne, oui, ça veut dire œuvre de la nuit, c'est dans leur titre. Mais c'est pas non plus nécessairement intime ou susurré pour autant. Ce qui veut dire que la grande éloquence et les couleurs d'Alain Planès peuvent ici se déployer en toute liberté. Le 12e nocturne de Frédéric Chopin, opus 37, numéro 2, s'était joué au piano par Alain Planès, pas n'importe quel piano. Un Pleyel de l'année 1836, c'est tout nouveau, ça vient de paraître chez Harmonia Mundi. Il va y avoir encore une nouveauté pour conclure, on la doit au trio Zadig, qui nous a fait un disque Saint-Saëns pour l'essentiel. Pas que Saint-Saëns, mais quand même Saint-Saëns, c'est une curiosité. Amateurs de la musique de Jean-Philippe Rameau auront reconnu peut-être la marée des pièces de clavecin en concert dont cette formation un peu originale, le trio piano-violon-violoncelle, c'était une adaptation, un arrangement. Il ne s'agit pas de tout changer, mais il fallait bien limer aux entournures quand même. Signé Jean-Philippe Rameau, non, signé Camille Saint-Saëns. Il nous rappelle avec ce disque que Saint-Saëns a été fondamental pour la redécouverte de la musique de Rameau, ne serait-ce qu'à travers la grande édition qu'il a coordonnées. Et donc sur ce disque, on retrouve quelques-unes de ces pièces de clavecin en concert, arrangées par Saint-Saëns. Il n'y a pas que ça au programme, ça nous montre un Saint-Saëns qui est au croisement de tout un tas de traditions, puisqu'il y a aussi Orpheus, le grand poème symphonique de Franz Liszt, dans cet arrangement pour trio de Saint-Saëns lui-même. Et puis il y a aussi un trio de Saint-Saëns pour La Bonne Bouche et pour Faire Bonne Mesure, le deuxième qu'on va entendre ici, interprété par le trio Zadig. Thank you. l'andante du second trio de Camille Saint-Saëns par le trio Zadig. Un grand merci à Florian Henault, Antoine Courtin et Titouan Labarre. Bonjour Aurélie Moreau.
Bonjour Lionel Esparza.
Quand on a soupé de Beethoven, on fait des compositeurs plus rares.
Voilà.
Ah, c'est ça, hein, pour c'est changer ça, un peu.
Oui, parce que ce qui est rare est cher, n'est-ce pas?
Ah, en plus, oui.
Voilà, c'est le programme du fan de Beethoven. Magnifique mouvement lent du deuxième trio de Saint-Saëns. Je l'avais dans la tête ce matin d'ailleurs.
C'est pas vrai?
Ben si.
Ah, vous, voilà. On a eu une sorte de prescience,
voilà,
c'est ça.
C'est
hein
ça, c'est ça, c'est ça. Les grands esprits se rencontrent, voyez-vous. Je vous dis à demain.
À demain.